Voilà. Bonjour à toute l'église connectée en ligne ce matin. On est heureux de vous accueillir dans ce lieu ici, à l'Épi, à la Méno, cette rue des Frères Hébert. On va célébrer Jésus ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu pour celles et ceux qui le peuvent? Célébrer Jésus, nous venons célébrer. Bonne célébration à chacune et à chacun.
Ensemble célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qu'il nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer de notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer, célébrer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer de notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Nous venons pour louer, adorer. Nous venons pour louer, adorer. Oh oui Seigneur, gloire à toi. Nous sommes là pour te louer, pour te lever, pour t'adorer.
Sont affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles. de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
Avec Eric, on a pensé ensemble à un moment de prière justement sur la base de ce chant « De ta voix, tu nous appelles ». Et une manière de disposer son cœur pour écouter spirituellement Dieu parler à notre cœur, c'est la prière. C'est réfléchir, c'est méditer, c'est approfondir ensemble. Alors, on aimerait inviter l'Église en prière ce matin. Inviter l'Église, vous qui connaissez le Seigneur, à invoquer son nom dans ce lieu. Quand on invoque le nom du Seigneur, il envoie son salut, il envoie sa parole, il déverse tout ce qu'il a promis. Alors ensemble, on voudrait s'inviter. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, ce matin. Développe en nous une écoute spirituelle. Et si vous pouviez aussi ne pas me laisser seul et qu'on prie ensemble, ça serait encore meilleur. Qu'on puisse vraiment invoquer le nom du Seigneur dans ce lieu. Oui, on veut entendre ta voix, Seigneur, encore et encore. On veut pas s'habituer, Seigneur, et dire qu'on maîtrise, qu'on connaît. Alors ensemble, en tant qu'Église, on veut dire, Seigneur, continue de parler. Continue, Seigneur, de parler à nos cœurs. Apprends-nous à t'entendre. Apprends-nous à t'écouter. De ta voix, tu nous appelles, Seigneur Jésus. Ce matin, nous croyons que tu es en train d'appeler. Tu es en train d'appeler certaines personnes au salut, à une reconnexion, à une redécouverte de l'amour, du salut, de la vie éternelle. Tu appelles certains, Seigneur, aussi ce matin, à changer peut-être de direction parce que la voie que l'on suit n'est pas ta voie. Parle, Seigneur. On va être comme Samuel qui dit, parle, ton serviteur, ta servante, écoute, Seigneur. Oui, Seigneur, développe notre oui spirituel. Oui, Seigneur, nous voulons invoquer ton nom, nous voulons parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, tu es en train de dire à ton corps charnel, je crois dans le surnaturel. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons prier, ne pas juste multiplier des paroles, mais prier, dire Jésus, parle. Mon âme, écoute l'Éternel. Mon âme, sois sensible. Seigneur, ramène-nous à la croix ce matin, là où tout a commencé pour nous, l'œuvre de la croix, là où pour la première fois, notre âme a entendu l'amour de Dieu, a ressenti l'amour de Dieu, a vu l'amour de Dieu. Oui, Jésus, ce matin, voulons être de cette église qui entend la voix du bon berger, Nous voulons être de cette église qui reconnaît qu'on a encore besoin d'être renouvelé pour entendre la voix du bon berger. Oui, cet amour, Seigneur, il peut libérer. Et ce matin, en église, avec nos amis en ligne, nous voulons confesser que tu es le Dieu qui libère encore aujourd'hui. Nous voulons confesser que tu es le Dieu qui relève encore aujourd'hui. Nous continuons de croire, même si la vie n'est pas totalement ce qu'on aimerait qu'elle soit, que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Nous voulons continuer de croire dans la foi. Nous voulons continuer de croire que tu es le Dieu qui délivre et libère encore aujourd'hui. Tu n'en as pas terminé, Seigneur. Alors nous nous unissons tous en prière ce matin. Nous voulons nous accorder en prière ce matin pour confesser, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Voilà notre prière ce matin. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est capable d'accomplir l'impossible. Le Dieu qui n'a pas de limites. Renouvelle-nous dans nos pensées, dans notre esprit, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, aide-nous à être renouvelés dans cette pensée. Que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Oui, Seigneur, nous nous en remettons encore à toi parce que le chemin continue, notre route avec toi continue. Alors merci. Merci pour ce temps, Seigneur, où tu nous permets de juste nous concentrer sur notre relation à toi, en prière. Merci, Jésus. Amen.
De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, oh oui, de ta voix.
Voilà, on croit que le Saint-Esprit parle au travers de la louange, au travers de nos discussions, au travers de la prédication et au travers des uns et des autres et qui veulent chercher vraiment une parole d'encouragement, une parole de soutien et voilà. Notre sœur a reçu une parole qu'elle veut soumettre à l'Église et on va le discerner ensemble et on va prier pour cela. Donc je te tiens le micro comme ça.
Bonjour tout le monde, j'ai reçu comme cette parole. Tu es agité parce que tu es à la croisée de plusieurs chemins et tu penses, tu ne sais pas quel chemin prendre. Je te donne ma paix, pas comme le monde la donne. Et donc reçois ma paix et dans cette tranquillité, je t'indiquerai le chemin que tu dois prendre. Merci.
Alors attends. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en prière. On va réfléchir à ce qu'on vient d'entendre. Si peut-être quelqu'un est vraiment à la croisée de plusieurs chemins, ça peut arriver. Des fois, c'est très net. Peut-être certaines personnes auraient voilà, plusieurs décisions comme on l'a entendu à prendre. On va juste prendre un temps de prière et on va prier en église parce que peut-être quelqu'un a besoin que l'église prie maintenant pour qu'il y ait la paix de Dieu qui descende sur sa vie, qui remplisse sa vie. Amen. Alors on va prier et peut-être une personne a... Et interpellé par ce message ce matin, il se dit « Mais je suis à la croisée des chemins, c'est exactement ça. Et j'aimerais qu'on prie pour moi. » Alors que l'Église est en prière, tu peux juste te faire connaître et on va prier pour toi. Tu as juste à lever la main et dire « On vous voit. » Ok. Seigneur, on veut maintenant prier pour ces personnes interpellées par ce don. La croisée des chemins, plusieurs décisions, des choix difficiles à prendre certainement. Si tu parles, c'est qu'il y a forcément... une réponse qui arrive pour ces personnes. Et cette réponse, tu l'as donnée au travers de cette parole. Nous te prions pour que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, puisse être maintenant dans le cœur de toutes les personnes qui viennent de lever la main, Seigneur, afin qu'elles puissent prendre les bonnes décisions avec sagesse parce qu'elles sont dans ta paix, avec intelligence parce qu'elles sont dans ta paix, Seigneur. Nous te prions pour elles et nous te prions que les décisions qui vont être prises soient un témoignage à ta gloire dans les jours, semaines, mois qui vont arriver. Merci, Seigneur, parce que tu parles encore aujourd'hui. Et on te remercie parce que tu as démontré aux personnes qui avaient besoin de se souvenir que ta paix est pour elles ce matin. Que tu existes, que tu es vivant et que tu ne les as pas oubliées. Et nous avons prié ensemble au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. On peut continuer dans la louange. Que Dieu soit béni.
Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Salut, mon refuge, tout est dans toi ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans toi ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma source, toi seul me reste au
rester comme un seul homme ou une seule femme debout ensemble pour écouter encore une parole avant d'aller un peu plus loin, qui va interpeller peut-être une personne qui en a vraiment besoin.
Le Seigneur te dit ce matin, je veux te consoler, car je vois tes larmes, je vois tout ce qui te fait mal. Tu te dis dans toi-même, qui me consolera? Qui viendra à mon secours? Qui séchera mes larmes? Je n'ai personne à qui me confier. Mais Jésus te dit, viens, viens, je t'ouvre mes bras, j'ai remporté toutes les victoires à la croix. Oh, si tu savais tous les gens que j'ai secourus, tous les gens que j'ai délivrés, alors ne crains pas, ne crains pas, jette-toi dans mes bras, je t'attends, je t'ouvre mes bras. Je ne veux qu'une chose, c'est te secourir. Je veux t'aider, je veux... Ta vie est un sac de nœuds que tu ne peux pas dénouer toi-même. Mais moi, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je veux devenir ton Dieu, je veux devenir ton sauveur. J'ai payé le prix pour ça. Tourne-toi vers moi ce matin. Je t'appelle encore et je t'appellerai encore jusqu'à ce que tu me donnes ton cœur, tu m'ouvres ton cœur. Je ne forcerai pas la porte de ton cœur. Non, non. C'est à toi de l'ouvrir tout grande pour que je puisse y pénétrer et te faire du bien. Tu verras comme ta vie sera transformée. Tu verras tout ce que je peux faire pour toi, tout le bien que je te ferai. Je te bénirai au-delà de toute espérance. Tu seras étonné. Même ton entourage sera étonné de la vie que je vais transformer en toi, de tout ce que je vais faire. Mais viens, 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 je t'appelle ce matin. Viens, ouvre-moi la porte de ton cœur, dit le Seigneur. Amen.
Seigneur, tu invites, tu interpelles ce matin. Cette célébration, en réalité, est un rendez-vous divin pour une ou plusieurs personnes. Alors nous te prions que cette rencontre de ce matin soit décisive et que les personnes qui ont besoin d'ouvrir leur cœur et qui ont du mal, parce que, comme on l'a entendu, c'est des sacs de nœuds, c'est des décisions, des choses qui sont venues plomber, écraser. Tu libères ce matin, Seigneur Jésus. Des vies vont être libérées ce matin, au travers de tout ce qu'on est en train de vivre, On te remercie, Seigneur, parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, on veut y prendre garde, Seigneur Jésus. Alors merci. Merci pour cela, Seigneur. Amen. 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 Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge. Tout est en toi, Seigneur.
Ta victoire, oh oui, ta victoire, ta victoire.
Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Je suis tranquille. Ce matin, Saint-Esprit parle beaucoup de la paix. Alors, asseyez-vous ce matin en paix. en paix. Bienvenue à l'église de l'Épi, pour vous qui nous rejoignez en ligne, je m'appelle Mathieu Thoman, je fais partie de l'équipe pastorale. Bienvenue à vous qui êtes dans ce lieu ce matin en visite, en découverte, invités. Vous êtes arrivés sur Strasbourg, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce que nous croyons être une des maisons du Seigneur ici de Jésus dans l'Eurométropole à Strasbourg. On aime, nous, en tant qu'église de l'Épi, être une église très pratique et essayer d'apporter des solutions pratiques. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'annoncer à quelqu'un qui allait être en souffrance parce qu'elle cherchait ses clés de voiture que l'église de l'Épi les a retrouvées. Voilà, on essaie d'être une église pratique, nous. On est très concret. Du coup, si vous fouillez dans votre poche à cet instant et que vous cherchez vos clés de Nissan avec ce petit smiley qui m'encourage, voilà, vous pourrez venir me voir juste tout de suite après les temps d'annonce. Je serai heureux de vous donner cette clé. L'église de l'Épi, c'est une église qui aime se rassembler le dimanche matin lors de temps de célébration. Et chaque célébration se suit, mais ne se ressemble peut-être pas. Pourquoi ? Parce que nous voulons rester toujours sensibles à la diversité, à la richesse du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas dans une espèce de systématique où il faut tout le temps être comme ça, il faut juste être à son écoute. Et chaque dimanche, le Saint-Esprit Dieu parle à nos cœurs. L'église de l'Épi aussi, c'est différentes rencontres en semaine. Et on vous annonce que les groupes de maisons dans différents quartiers de Strasbourg ont redémarré. Donc si vous voulez avoir toutes les informations, tout de suite à votre droite, en sortant de cette grande salle, vous allez avoir accès à l'espace vie d'église. Vous verrez, ce sera affiché. Vous aurez toutes les informations sur nos groupes de vie, les groupes de maisons. Et vous pourrez ainsi vous renseigner, être orienté pour que vous puissiez trouver un endroit où prier, méditer la Bible, créer des relations qui édifient, faire connaître peut-être l'évangile dans le cadre du quartier, d'une maison. En tout cas, c'est vraiment un endroit où on peut vraiment vivre des relations et grandir dans sa foi en Jésus. Donc voilà, les groupes de maison sont en marche pour une nouvelle année et on est très heureux de vous annoncer, il y a un an, vous parlez de la formation pour des ouvertures de nouveaux groupes de maison. Cette année, deux nouveaux groupes de maison sont ouverts et on croit que comme ça encore, petit à petit, les choses vont aller de l'avant. Génial, n'est-ce pas? Une autre annonce, vous savez qu'à l'Épi, on aime la formation de disciples. On croit qu'être disciple, c'est prendre le temps de prendre soin de sa foi, prendre soin de son équilibre biblique, prendre soin de plusieurs aspects qui composent notre vie. Et nous avons plusieurs formations, parcours pour couple, différentes formations qui aident aussi dans certaines crises de la vie. Nous avons aussi un parcours en lien avec votre vie professionnelle. Et c'était aussi un groupe qu'on a beaucoup parlé l'année dernière, un groupe qui a vécu, qui est allé jusqu'au bout et on veut célébrer ça ce matin, un nouveau groupe. Et là, il y a une nouvelle saison qui arrive. Alors, je vous demanderai d'accueillir et d'encourager Thérèse, qui est la responsable du groupe C'est Proactive.
Quand j'ai appuyé sur le bon bouton, ça commence mal. Ça commence bien. Bonjour à tous. Oui, C'est Proactive, c'est reparti. Mais avant de vous parler du programme de cette année, j'ai quelques merci à faire. Merci Michel, parce que Michel y a cru, avant même que ça n'existe. Michel, sans toi, ça n'aurait pas été possible. Merci Mathieu, parce que Mathieu, il a l'énergie qu'on lui connaît, le dynamisme qu'on lui connaît, et sans toi, ça n'aurait pas pu se construire. Merci Mathieu. Et puis merci Raymond Pierre de nous avoir accompagnés pendant toute cette année, d'avoir été présent, bienveillant. Sans toi, rien n'aurait été possible non plus. Et puis un merci à Anne-Marie Husson qui regardera le replay, j'en suis sûre, parce que sans elle, ce programme n'existerait pas. Et puis un autre petit merci à Fanny, Laure et Pascal qui ont tenu jusqu'au bout. Merci à vous pour votre persévérance. Alors, ce programme, il est pour qui ? Il est pour tous ceux qui travaillent, qui ont travaillé, qui vont travailler. Vous êtes dans un travail, vous cherchez un travail, vous êtes retraité, mais vous êtes investi dans une association, ce programme est pour vous. Next. Pourquoi ce programme? Je rebondis sur la parole qui a été donnée tout à l'heure. Peut-être que votre vie professionnelle est un sac de nœuds. Peut-être que vous avez perdu du sens, que votre travail a perdu du sens. Peut-être que vous ne savez pas comment vivre votre engagement chrétien en dehors de ce lieu et ce temps. On va prendre ça pour un signe. En dehors de ce lieu et de ce temps. Et puis peut-être que vous n'avez pas décelé encore dans votre travail une dimension spirituelle. Et si la Bible avait les réponses pour que nous puissions tous aligner notre travail avec le plan de Dieu. Next. Le programme se déroule en 2 années. Croyez-moi, c'est pas trop. Et ça passe très vite. La preuve, on a déjà fini la première année. Pendant la première année, on découvre dans la Bible comment on peut aligner notre travail avec le plan de Dieu. Et puis dans la deuxième année, on identifie nos dons, nos talents, ce que Dieu nous a donné pour rentrer dans le ministère que Dieu nous confie pour notre vie professionnelle. C'est un parcours qui est assez unique, il n'y en a qu'un en France. Petite parenthèse, il y a une 20aine de groupes qui existent partout en France cette année, en visio, en présentiel, dans des églises, mais hors église aussi. Et c'est un parcours pour transformer notre vie professionnelle en un ministère vivant que Dieu nous confie. Et croyez bien que nos vies professionnelles sont déjà transformées. Je voudrais citer Fanny qui, la semaine dernière, on a démarré le parcours de deuxième année, nous a déjà dit qu'elle avait une crise à son travail. Et elle s'était rappelée ce qu'elle avait appris pendant cette première année et elle avait géré la crise différemment, sans doute différemment de ce qu'elle aurait fait l'année dernière. Donc, nos vies professionnelles sont déjà transformées. Ce n'est pas des révolutions, hein, mais on avance. C'est pour ça qu'il nous faut une année. Alors, comment est-ce que, quand et comment ça fonctionne? Eh bien, nous avons le projet, si vous êtes assez nombreux, de créer 2 groupes. Et Pascal, qui a suivi la première année, est prêt à animer le deuxième groupe. Donc 2 groupes de 6 ou 7 personnes, il faut que nous puissions converser. C'est 12 séances d'1h30, en principe on le fait le soir en visio. Et puis on a le projet de démarrer au moins 1 groupe en octobre, et puis si on a 1deuxième, peut-être un peu plus tard. Nous avons dans notre équipe aussi une compétence particulière, c'est Laure qui est infographiste et qui nous a fait un joli flyer. Il se trouve à l'entrée. Si vous n'avez pas eu le temps de flasher le QR code, il se trouve sur le flyer. Et puis il y a mon mail si vous avez des questions. Donc je vais faire comme dans l'armée, rejoignez-nous et votre vie va être transformée. Merci à tous.
Merci. Raymond Pierre, est-ce que tu, en ta qualité de responsable de la formation à l'EPI, on peut prier pour ces proactifs, s'il te plaît, et puis pour ces prochains groupes qui seront là, que Dieu puisse bénir tous ses disciples dans le monde professionnel.
Mais Seigneur, on te remercie pour des frères et sœurs qui mettent à disposition de leur temps pour investir dans la vie des autres. Et vraiment, on veut te prier pour Thérèse, pour toute l'équipe qui se met en place pour cette nouvelle année, parce que nous croyons, Seigneur, que le contact avec ta parole fait la différence de manière pratique dans nos vies au quotidien. Merci Jésus, parce que nous croyons que cette formation, elle va contribuer, Seigneur, aux uns et aux autres pour pouvoir briller là où ils sont dans leur travail, pour pas qu'ils continuent de peut-être subir le travail, mais de s'en saisir, Seigneur, comme un espace où tu veux les utiliser, Seigneur, pour faire une différence par leurs gestes, par leur amour, par leur intégrité, par tout ce qu'ils peuvent mettre en place dans le cadre de leur travail. Alors vraiment, je te prie de bénir cette année qui va débuter, Seigneur. Je te prie de déposer dans les cœurs peut-être des uns et des autres qui se cherchent ce matin, qui disent mais il y a quoi pour cette nouvelle année? Mais peut-être que ces proactifs, c'est la réponse pour toi cette année. Alors vraiment, on veut te prier pour ce temps, que ça puisse être un temps de construction. Seigneur, c'est toi qui bâtis ton église et tu utilises des pierres vivantes pour le faire. À toi la gloire et la louange, Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, Thérèse. Encore 2 annonces importantes dans la vie de l'Église. Nous avons une session de parcours baptême qui redémarre cette semaine, mercredi soir. Depuis ces derniers dimanches, dernières semaines, vous avez été interpellés par Dieu, touchés par Dieu. Vous n'avez jamais fait ce parcours où Jésus dit « Crois et sois baptisé ». C'est le bon moment. On te donne rendez-vous à l'espace vie d'église. Tout de suite à droite, quand tu sors, tu verras, tout est là maintenant, très accessible. Et tu peux te faire connaître. Tu rencontreras un membre de l'équipe pastorale. Et ensemble, vous pourrez faire ce parcours avec d'autres personnes déjà inscrites en vue de ce temps de baptême. Alors, n'hésite pas. Une dernière petite annonce aussi, j'ai tout fait de mémoire donc j'espère pas oublier. Oui, c'est la rentrée des 4-17 ans le dimanche 15 septembre. On est tellement heureux d'être une église qui accueille les plus petits, les jeunes, pour qu'ils puissent dans leur contexte, dans leur culture à eux, découvrir l'évangile, découvrir Jésus. On est tellement heureux aussi de pouvoir faire partie de ce qui va bénir les parents d'enfants des 4-17 ans. Parents, on vous aime, on prie régulièrement pour vous, on sait le défi d'être des parents disciples de Jésus aujourd'hui en 2024 et on est acteurs avec vous, on est co-ouvriers avec vous, parents. Donc, cette rentrée est importante. Si vous avez des enfants âgés de 4 à 17 ans, il y aura un espace pour eux à partir enfin, comme chaque année, mais à partir du dimanche 15. Et particulièrement pour épisode, les parents vous demandent d'inscrire vos enfants. Ça permettra à toute l'équipe de s'organiser en fonction des gestions de l'espace. Parce que pendant l'année, ici, c'est le rez-de-chaussée haut. Tout le rez-de-chaussée bas est rempli de la jeunesse. Et il nous faut pouvoir avoir les inscriptions pour pouvoir bien gérer les espaces dans les salles, pour respecter normes de sécurité et les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc tout de suite à la sortie de cette célébration, si vous êtes parents d'enfants et vous voulez faire de l'épi aussi peut-être votre famille et que vos enfants puissent bénéficier de cet apport que l'église veut donner aussi, participer avec vous, il y a une table, vous verrez, c'est une nappe jaune moutarde, il y a épisode écrit, vous verrez, et vous pourrez inscrire vos enfants à ce moment-là, et ça sera bien pour tous les animateurs et tous les encadrants de pouvoir s'organiser en amont. On va écouter la parole de Dieu maintenant. J'ai invité Raymond Pierre à venir. On va prier avec lui, on va prier pour lui, pour cette série qui est chère à notre cœur. On croit que ça va continuer à toucher, à bénir. Seigneur, on te prie pour Raymond Pierre, toute cette préparation en amont et ce matin de prêcher à l'église, d'apporter à l'église le conseil qu'on croit venir de toi. Merci de bénir Raymond Pierre, de le renouveler, qu'au travers de lui, le Saint-Esprit puisse parler, impacter, sensibiliser, toucher, nous permettre de grandir dans notre relation avec toi, Seigneur Jésus. Renouvelle-nous sur le sujet qui va être abordé, et qu'il y ait un impact là pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.
Amen. Bonjour à tous. Ça va l'église ce matin ? Il y en a quelques-uns qui vont bien, les autres j'espère que vous allez être encouragés. Dans quelques instants, on poursuit notre série sur la culture de l'Église que nous voulons vivre. Et je rappelle cette définition que Mathieu nous a donnée la semaine dernière. On entend par culture l'ensemble de valeurs, pratiques, croyances et actions qui caractérisent notre communauté locale. Le sociologue James Hunter a dit la chose suivante. La culture est un ordre normatif par lequel nous nous comprenons nous-mêmes, nous comprenons les autres et le monde qui nous entoure, et par lequel nous ordonnons notre expérience. Et c'est le but ce matin. On veut communiquer avec vous les standards. On veut parler avec vous de l'ADN de l'épi. Qu'est-ce qui fait l'épi? Qu'est-ce que nous voulons être et vivre en tant qu'église ici à Strasbourg? Et Mathieu nous a parlé la semaine dernière de la culture de la koinonia, des relations et notamment comment on gère les conflits au sein d'une communauté. Ce matin, c'est d'un point crucial qu'on va aborder, c'est celui de la culture théologique de l'épi. Alors on va l'expliquer tout à l'heure, mais en tout cas, la culture théologique de l'épi. Quelle est notre vision d'église par rapport à ce qu'on communique dimanche après dimanche ? On a un énoncé de vision qui décrit ce que l'Église est, que vous pouvez retrouver. Et cet énoncé de vision dit la chose suivante. L'épi est pleinement elle-même lorsque le message de la grâce est prêché. Sans légalisme, mais sans non plus transiger avec le péché, en vue de la transformation de chaque personne. Sans légalisme, mais sans transiger avec le péché. Pour que des gens puissent expérimenter la transformation comme on l'a entendu ce matin. Alors si en théorie, les chrétiens, on est d'accord pour dire qu'on croit au message de la grâce, est-ce qu'il y a des gens qui croient au message de la grâce? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient à la grâce dans cette salle? En théorie, on le croit, oui, Jésus est mort pour nous, c'est pas à cause de mes actions que je suis sauvé, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. En théorie, on y croit. Mais qu'en est-il en pratique? Qu'en est-il en pratique dans ma marche au quotidien avec Jésus? Est-ce que je vis comme un pardonné? Ou est-ce que je vis comme quelqu'un qui traîne une espèce d'épée de Damoclès où à chacun de mes faux pas, Dieu va me percer? Est-ce que je suis quelqu'un qui va percer ceux qui sont autour de moi dès qu'ils ne marchent pas exactement comme j'aurais voulu qu'ils le fassent? En théorie, on y croit. Ma question ce matin que je veux vous poser, c'est peut-on être chrétien et pharisien en 2024? Alors j'imagine que tout le monde, tous les lecteurs de la Bible vont dire « Ah ben non, on ne peut pas être chrétien et pharisien ». La réponse, elle est facile pour celui qui a l'habitude de lire la Bible. Mais on va voir ce matin qu'être pharisien, ce n'est pas juste un groupe spécifique du judaïsme du 1er siècle, mais c'est une attitude, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir qui peut caractériser les disciples de Jésus que nous sommes. On peut être là ce matin à louer Jésus, chanter ensemble, tourner dans la même direction, lire la même Bible et nous approcher de Dieu avec des motifs, des motivations de cœur différentes, des motivations intérieures complètement différentes. On peut être comme le Canada Dry. Alors je suis désolé pour ceux qui sont nés après 2000 ce matin, vous ne savez pas de quoi on parle, mais dans les années 90, il y avait une boisson qui s'appelait le Canada Dry. Et le slogan publicitaire qu'il y avait en France disait la chose suivante: ça a la couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Alors là, je sais qu'il y en a qui sont déjà en train de mépriser le pasteur dans leur cœur. Comment ose-t-il parler d'alcool depuis l'estrade? Alors restez à votre place, ce message il est pour vous ce matin. Ce message il est pour vous. Il y a une parabole de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Luc qui va répondre à cette question: peut-on être pharisien et chrétien? Et il va décrire pour cela deux personnes avec des attitudes, des approches différentes qui vont venir rendre un culte à Dieu, mais qui vont obtenir un résultat différent. On va lire tout le passage ce matin, c'est dans Luc 18, les versets 9 à 14, c'est pas très long. C'est Jésus qui parle et on nous dit, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même: « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Le premier point que je veux soulever avec vous, c'est qu'en Église, il peut y avoir deux types de croyants. Deux types de croyants. Jésus va utiliser ici une parabole pour enseigner tous ceux et celles et ceux qui étaient en train de l'écouter. Et une parabole, qu'est-ce que c'est? C'est juste une histoire fictive qui a pour but de transmettre un enseignement, mais pour ça on va utiliser des personnes, des objets, des situations que les gens connaissent pour qu'ils puissent comprendre facilement ce qu'on est en train de leur dire, utiliser quelque chose de familier. Donc pour ceux qui sont nés avant 2000, le Canada Dry par exemple. Quelque chose qui leur est familier pour leur faciliter la compréhension. Mais le but de la parabole, c'est de les surprendre par un effet de surprise, de les prendre à revers. Alors nous, elle est facile, on a la réponse. L'auteur nous le dit. Elle était là pour ceux qui étaient convaincus en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient les autres. Mes amis, si Jésus adresse ce sujet dans la Bible, c'est que son Église a besoin de veiller et d'entendre. Est-ce que je suis en train de mépriser? Est-ce que Dieu veut nous chercher sur notre attitude, celle qu'on peut avoir avec les autres? Alors, dans cette parabole, Jésus va utiliser deux catégories de personnes qui étaient bien connues de la société juive du premier siècle. Les pharisiens d'un côté et les collecteurs d'impôts de l'autre. Les premiers étaient admirés pour leur piété et les seconds ils étaient méprisés pour leur avidité et leur infidélité. Donc Jésus prend deux publics bien identifiés pour les gens de son époque. Le grand dictionnaire de la Bible explique que les pharisiens était un groupe populaire, un groupe puissant, ascétique dans son mode de vie, donc il y a certaines choses qu'ils ne pratiquaient pas pour vivre une spiritualité. Ils étaient soucieux d'apparaître sérieux à l'égard de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. Ces derniers possédaient tout un corpus, un système d'interprétation et de tradition supplémentaire à ce que l'Écriture demandait. Et c'est à la lumière de ça qu'ils vivaient pour accomplir leurs pratiques religieuses. Ils avaient une prétention à être les seuls bons interprètes autorisés de la loi. Et aux yeux du peuple, c'était vraiment les standards de la piété. Je pourrais dire que le pharisien, c'était le gendre idéal pour une mère pieuse en Israël. C'était le gendre idéal. C'est celui, faut que ma fille se marie avec. Opposé à cela, Jésus va parler du collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, il travaillait pour l'Empire romain. C'était des collabos. Ils étaient enclins à des extorsions, à des malversations. Et tous ceux qui exerçaient ce métier, ils attiraient la haine. Même si eux, ils étaient honnêtes, ils attiraient la haine. Cette corporation était, il y avait toute cette haine. Ils étaient considérés comme des parias, des gens non fréquentables, en particulier pour les juifs stricts du moment. En effet, ils étaient considérés comme impurs pour deux raisons. La première, au niveau cérémoniel. Pourquoi ? Parce que, ils collaboraient avec les païens, avec les romains. Et de deux, ils respectaient pas le sabbat. Ils travaillaient le jour du sabbat. Donc pour ça, ils étaient stigmatisés et les religieux interdisaient le peuple de même prendre un repas avec les collecteurs d'impôts. Et donc, cette attitude, cet enseignement qui était communiqué commençait à mettre de la haine dans le genre et ça n'arrange, dans le cœur des gens et ça n'arrangeait pas la situation. C'était des collabos, des menteurs, des voleurs. En gros, les pécheurs par excellence. Le théologien Amar Djabala va expliquer que la situation du publicain était telle que certains estimaient très difficile, sinon impossible, qu'il soit justifié. En gros, pour eux, pas de salut. Pour les autres, oui, mais pas pour celui-là, pas pour eux. Alors, il est vrai aujourd'hui que, je ne le pense pas en tout cas, les pieds en principe, nous ne portons pas de haine pour le fisc ou pour les impôts. Ah, il y en a quelques-uns. Belle maman, si tu m'entends, ma belle-mère travaillait aux impôts, je t'aime, belle maman. On ne porte pas de haine pour cette catégorie de public. Pourtant, il y a peut-être des catégories de personnes où on se dit, pour eux, pas de salut possible. Pour eux, pas de changement possible. Pour eux, pas de pardon possible. Des gens qu'on va commencer à mépriser dans notre cœur. Des gens peut-être qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes standards de vie que nous. Des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes pratiques que nous. Des gens qui n'ont peut-être pas la même religion que nous. Et insidieusement, il y a un travail qui peut se faire dans nos cœurs. On va commencer à mépriser certaines personnes. Et nous pouvons, comme ce pharisien, commencer à mépriser et ne juste plus vouloir être associés à ces gens-là. C'est intéressant de noter que notre traduction française de ce passage, elle ne rend pas bien la phrase qui dit « Le pharisien debout se tenait, faisait cette prière en lui-même ». En fait, ce n'est pas le fait qu'il soit debout qui soit un problème, c'était la façon de prier au temple. Mais par contre, c'est l'expression « en lui-même » qui est plus problématique. En fait, il y a deux façons de traduire le grec, la proposition « pros », soit « en lui-même », soit « par lui-même ». Et Amar Djabala va expliquer qu'il est plus logique de traduire « par lui-même » plutôt que « en lui-même ». C'est-à-dire, « par lui-même », ça veut dire qu'il se tenait à distance, qu'il se tenait à l'écart. Pourquoi ? Parce que déjà, dans ce passage, il y a un parallélisme. Lui se tient à l'écart des gens qu'il méprise, et à côté de ça, il y a le collecteur d'impôts qui se tient à l'écart. Les deux se tiennent à l'écart, mais pas pour les mêmes raisons. Il y en a un qui le fait par mépris des autres, il y en a un qui le fait parce qu'il se sent coupable, il se sent honteux, il ne s'estime pas digne d'être dans la présence des croyants. Sur le papier, on les regarde, les deux ont la même attitude. Et pourtant, une différence à l'intérieur. On nous dit le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas lever les yeux au ciel. Il se sentait honteux. Donc à l'œil nu, l'attitude est comparable, pourtant complètement différente. Deuxième point, c'est que la prière juive avait lieu dans le cadre du culte d'adoration collective, communautaire, au moment où les sacrifices étaient faits, et on sait que les prières se faisaient de manière audible. Pas ostentatoire, c'était pas la foire, tout le monde criait pas en même temps, mais c'était une prière de manière audible. Voilà pourquoi sur la base de ces éléments, il vaut mieux traduire par lui-même, à cause de ce que je viens de vous expliquer. Alors on va voir le contenu des prières dans quelques instants, mais j'aimerais juste qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse à certaines attitudes, certains comportements, certaines personnes, où quand on pense à eux, à elles, on se dit, avec ce qu'il ou elle a dit, avec ce qu'il ou elle a fait, pas de pardon possible, pas de salut possible. Mes amis, j'aimerais vous rappeler une chose ce matin. Il n'y a pas de péché assez lourd que la croix de Jésus n'ait pu porter. Il n'y a pas de situation assez lourde que le salut de Jésus ne puisse communiquer ou ne puisse donner. On veut déclarer ce matin ici à l'église de l'Épi à quiconque nous suit, que ce soit dans cette salle ou que ce soit sur Internet, que la présence et la grâce de Dieu sont accessibles pour toutes celles et ceux qui y aspirent et s'approchent de lui. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous sommes les bienvenus dans la présence de Jésus. On a vu ces deux types de personnes qui peuvent être dans l'église, mais on va voir aussi maintenant deux types de prières qu'on peut vivre dans l'église. La première prière, et je la répète, et je la relis, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Mes amis, si la prière, elle est importante, l'attitude de prière, elle est vitale. Si la prière, elle est importante pour s'approcher de Dieu, notre attitude de prière est encore plus importante. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que la prière de ce pharisien, elle est incroyable. Alors lui, il s'adresse à Dieu, il le remercie. Alors là, on l'a lu dans notre version, ça parle, il remercie Dieu. Dans d'autres versions, vous allez voir, il parle de la grâce de Dieu. Alors, il emploie le vocabulaire de la grâce, il emploie le vocabulaire du remerciement, mais il ne rend pas grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Il cherche plutôt à faire pour Dieu, il montre plutôt ce qu'il fait pour Dieu et combien il est meilleur que les autres. En particulier de lui là, le collecteur d'impôts. Le pharisien ne vient pas au temple pour prier Dieu. Non, il vient pour proclamer ses mérites à qui veut l'entendre. J'aime le commentaire de la Bible Vie Nouvelle, c'est une Bible qu'on offre aux baptisés, et elle dit la chose suivante, elle parle de l'autosatisfaction, parce que c'est là ce qu'on est en train de vivre dans ce passage, l'autosatisfaction. Et elle va dire la chose suivante, l'autosatisfaction est dangereuse, elle nous conduit à l'orgueil et au mépris envers les autres. De plus, elle nous rend incapables d'apprendre quoi que ce soit de Dieu, et j'ajoute même des autres. Elle nous rend incapables d'apprendre des autres. Certains sont tellement imbus de leur spiritualité supérieure que ni Dieu, ni la Bible, ni les autres ne peuvent les infléchir dans leur attitude. C'est une catégorie de gens qui peut difficilement faire l'objet de fréquentes remises en question, de remises en cause. Alors j'aimerais donner une petite soluce, un petit tips, comme on dit, pour pouvoir grandir grâce aux autres qui nous entourent. C'est une citation dont je n'ai pas retrouvé l'auteur, mais la parole, elle est tellement bien que j'ai envie de vous la dire. En tout cas, elle n'est pas de moi. Si une personne vous dit que vous avez un problème, ignorez-la. Si deux personnes vous le disent, réfléchissez-y. Si trois personnes vous le disent, il est probable que vous ayez un problème. Lorsque plusieurs personnes indépendantes vous font un même retour, il est sage de considérer leur point de vue. Mes amis, je vais un petit peu juste ouvrir mon cœur là, mais on vit une situation familiale avec un proche, de quelqu'un qui voit tout le temps le problème chez tout le monde. Il en a fini par couper les ponts avec toute sa famille, moi y compris. Mais incapable d'écouter qu'on lui disait « Mais regarde ton attitude, t'es tout le temps en train de juger tout le monde. » Et il est tellement allé loin qu'il s'est isolé de tout le monde. En fait, notre cœur inflexible, imbu de lui-même, ça crée de la destruction, mes amis. Ça crée de la destruction, ça crée des blessures, ça crée du mal. Donc, soyons vulnérables et puis n'ayons pas trop d'orgueil de nous-mêmes. Si quelqu'un nous dit, écoute, là, je crois que ça bug un petit peu, puis qu'il y en a un deuxième qui dit la même chose, c'est vrai. Quand mes collègues me disent que j'ai un sale caractère, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, j'essaie d'y travailler. Par la grâce de Dieu, je m'appuie sur lui. Ensuite, le pharisien va lister une liste de noms de pécheurs pour souligner combien il est bon en comparaison. Parce que oui, l'autosatisfaction, elle est toujours associée de la comparaison. Et il va parler des voleurs, des trompeurs, des personnes infidèles, les adultères. Tous ces gens, pour lui, sont indignes de pouvoir rendre un culte à Dieu, mais surtout de se tenir dans une même pièce. Tous les adultères dehors de l'église, tous ceux qui ont commis l'adultère, tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont menti, dehors. Mes amis, il n'y aura plus personne à la fin, là. Il est dans cette attitude-là. Aucune pitié, aucune miséricorde dans leur regard ou dans leurs propos. Mes amis, il est toujours important de ne pas perdre de vue que l'Église n'est pas un musée pour les saints, elle est un hôpital pour les malades. Le problème, c'est que bien souvent, on refuse le diagnostic de notre propre cœur. Nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades. Et c'était bien le problème des pharisiens. Michael Reeves, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les pharisiens évangéliques ». Alors mes amis, le stand de librairie n'en a qu'un seul. Donc allez vous battre à l'issue de cette célébration pour lire ce livre. On en recommandera d'autres, mais là, la CLC, ils étaient en rupture. Mais s'il y a un livre à lire ce mois-ci, je vous encourage sur ce sujet, si ce sujet vous interpelle, allez le chercher, il n'y en a qu'un seul. Mais c'est vraiment quelque chose de fort. Et il dit la chose suivante par rapport aux pharisiens. Et je suis allé trop loin. Oui, c'est ça. Il dit, il s'agit avant tout d'un problème théologique. Les pharisiens étaient et agissaient comme ils le faisaient parce qu'ils avaient rejeté l'évangile. Tout leur absence de miséricorde, leur recherche d'éloge et leur confiance en eux-mêmes découlaient d'un refus d'écouter les Écritures, de recevoir une justice qui n'était pas la leur et de voir qu'ils avaient besoin d'un cœur nouveau. En somme, leur personnalité n'était qu'une manifestation de leur théologie. Mes amis, on peut maîtriser le texte biblique et s'en vanter tout en méprisant le contenu du texte biblique. On peut maîtriser la théologie et mépriser son contenu. On a besoin de veiller à cela. Vous savez, on est capable d'utiliser la théologie pour aller ôter la paille dans l'œil de l'autre, tout en laissant bien en évidence la poutre dans notre œil qui sert de socle à notre orgueil. Qui sert de socle à notre orgueil. Vous savez, on connaît tous des gens qui vont citer des versets bibliques, et puis quand on les entend, ça nous met même honte, parce qu'on dit, mince, moi je connais pas autant ma Bible. Et ils vont citer des versets, ils ont une réponse verset par verset pour tout, mais toujours hors contexte pour justifier leur prétexte. En fait, pour justifier leur croyance. Alors ils utilisent le texte, mais ils respectent pas le contexte, le passage, la révélation de la Bible progressive de l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus. Ils respectent pas tout ça, mais ils vont te bombarder de versets. Puis on a honte face à eux souvent. On les connaît, ces gens-là. Mes amis, en tant qu'évangéliques, qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire le livre par lequel Dieu se révèle premièrement, en croyant que les évangéliques, que la Bible est la vérité, nous ferions bien de prendre garde à cet appel de Jésus, au pharisaïsme évangélique qui peut naître dans nos cœurs. Je vais vous donner cette citation encore de Michael Reeves qui s'adresse directement à nous, au cas où des gens se posaient la question encore, est-ce qu'on peut être pharisien ? Il dit la chose suivante, « Lorsque les évangéliques se laissent séduire par l'idée que les Écritures sont une fin en soi, d'étranges ressemblances avec les pharisiens commencent à poindre. Au lieu d'être chéri comme un miroir qui révèle ce que l'on est, la Bible est utilisée comme une arme pour taper sur les autres ou comme une tribune sur laquelle on fait l'étalage de sa connaissance. L'arrogance germe lorsque, aveugle à la lumière de la parole, nous devenons experts de ces mots. » Mes amis, on peut être aveugle au diagnostic de la parole de Dieu sur nos vies, quant à l'état de notre cœur. Et donc, ne pas ressentir notre besoin de pardon et de rédemption. Puis vous savez, la rédemption, elle ne peut pas s'appliquer si on croit qu'on peut se sauver par soi-même. Le principe de la rédemption, c'est que quelqu'un nous sauve de quelque chose qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Alors ensuite, il va continuer. Il va lister une liste de pratiques qu'il vit. Le jeûne et la dîme. Qui croit au jeûne et à la dîme à l'épi ? Ah, il y en a qui croient quand même aux jeûnes, là. Avec tout ce que Michel a fait depuis toutes ces années, on croit aux jeûnes et prières. La pratique du jeûne, c'est un temps mis à part, où le croyant va s'humilier devant Dieu et exprimer sa dépendance à son égard. Et c'est encore à ça que ça sert aujourd'hui, d'exprimer notre dépendance de Dieu, bien qu'il nous donne toute la nourriture, tout ce dont nous avons besoin. Pendant ce temps-là, on est en train de dire à Dieu, je sais qu'au-delà de tout ça, si je peux vivre, si je peux respirer, si mon corps peut être en santé, c'est parce que tu es le pourvoyeur. Et c'est ça que ça veut dire. Sauf que des fois, on essaie d'utiliser le jeûne pour faire un bras de fer avec Dieu. Alors, il y a quelques semaines, on était avec Jérôme au camp d'ado, au credo. Et puis, les jeunes ados de 13 ans, les filles, se sont mis en tête de remporter un bras de fer contre Jérôme. Alors, Jérôme, il est gentil, il a mis son bras gauche. Mais mes amis, avec leur corps frêle de 13 ans, elles ne pouvaient pas faire le poids. Et nous, parfois, on croit qu'on peut faire le poids avec Dieu dans un bras de fer. Et c'était le problème des pharisiens, c'est qu'ils avaient détourné l'objectif du jeûne et prière pour en faire une pratique méritoire. C'est-à-dire, je vais jeûner, et puis ça va faire un bras de fer avec Dieu, et il va être obligé de me donner quelque chose. Alors, voilà pourquoi le peuple voyait ces religieux comme étant les hommes selon le cœur de Dieu. La loi ne prescrivait un jeûne qu'une fois par an, le jour des expiations. Alors eux, ils se sont sentis obligés de dire « Je jeûne deux fois par semaine. Tu vois, Seigneur, tout ce que je fais pour toi, alors tu me dois quelque chose. » Ensuite, on va parler de la dîme. La dîme, c'était un impôt religieux par lequel le croyant israélite exprimait sa soumission au droit de propriété de Dieu sur les produits de la terre et sur le bétail. Mais les pharisiens vont étendre cela à des produits les plus minimes, comme la menthe ou comme d'autres aromates, comme d'autres plantes, et même à certains produits pour lesquels la dîme avait déjà été payée. En gros, il est en train de dire, mais regarde tout ce que je fais pour toi. Alors on dira, ah, les pharisiens, ils sont comme ça, mais pas nous. Mes amis, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un disciple, quand un chrétien évangélique tombe malade ? Seigneur, pourquoi ça m'arrive ? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné ma vie, je t'ai consacré, puis tu permets ça dans ma vie. On est en train d'essayer de dire qu'on a fait des choses pour Dieu, ou Dieu nous doit quelque chose. Mes amis, Dieu ne nous doit rien à personne, même au pasteur le plus influent, celui qui a le plus de vues sur TikTok et YouTube. Dieu ne nous doit rien. Par contre, Dieu nous aime. Et on peut s'approcher de ce Dieu de grâce. Amen. Alors, du coup, toutes ces pratiques qu'il essaye de mettre en place, le pharisien, c'est ce qu'on appelle le légalisme, le mot que vous retrouvez dans notre vision de l'épi. Le légalisme dit que nous devons mener une vie sainte, juste pour être sauvés. Le légalisme se distingue en cherchant à développer une espèce de droiture, un comportement qu'on va présenter à Dieu pour qu'il nous doive quelque chose. Ce sont plein de « il faut faire ça », « tu dois faire ci », »,« tu dois être comme ça », »,« tu dois pas être comme ceci », »,« tu dois pas t'habiller comme ça ». Les cheveux bleus, c'est interdit. Et ce légalisme-là, il va se décliner en plusieurs pratiques. Alors je vous donne une liste de pratiques que mon professeur d'école biblique Gaëtan Brassard au Canada a donné pour donner un peu ces formes de légalisme qui existent. Premièrement, il y a le moralisme. Le moralisme, c'est quoi ? Dieu va bénir ma moralité supérieure. Je suis quelqu'un de droit et de juste, donc Dieu va me bénir. Ensuite, il y a l'ascétisme. Dieu bénit mon abstinence supérieure. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je jeûne beaucoup, je cherche à faire des pratiques ascètes. Dieu va me bénir à cause de cela. Ensuite, il y a le spiritualisme. Dieu bénit ma spiritualité supérieure. Dieu me parle directement depuis le ciel tous les jours parce que je suis meilleur que les autres. L'intellectualisme. Dieu bénit ma connaissance supérieure. Il y a des gens, la vie de foi, c'est compliqué. Tout doit être démontré, etc. Non, Dieu ce qui bénit, c'est mon intellectualisme. Ensuite, il y a le mysticisme. Dieu bénit mon expérience supérieure. Mon ami, si tu n'es pas tombé par terre quand on a prié pour toi, que tu t'es pas roulé, que tu n'as pas craché partout, tu n'as rien vécu avec Dieu. Moi, je ne veux pas de ce Dieu-là, mes amis, il me fait peur celui-là. J'en veux pas. Le fidéisme. Dieu bénit ma foi supérieure. J'ai plus de foi que les autres. Voilà toutes sortes de dérives du légalisme. Mes amis, laissez-moi vous rappeler ce matin que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et laisse-moi te dire que ton péché n'est pas moins grave que celui de ton voisin. Ton péché n'est pas moins grave. Les conséquences peuvent être différentes, mais ton péché n'est pas moins grave aux yeux de Dieu. Un seul péché fait sauter tous les commandements et on est tous coupables devant Dieu. C'est ce que Paul dira dans sa lettre aux Romains. On est tous coupables devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un seul salut. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous l'offrir. Veillons à ne pas laisser une forme de pharisaïsme évangélique contaminer notre christianisme. Je vais vous laisser une phrase dure de l'écrivain C.S. Lewis, auteur du Monde de Narnia, des fondements du christianisme. Il a écrit tellement de livres. Elle est dure, mais elle est tellement vraie. Il parle de lui-même et on peut tous se l'approprier ce matin. Il dit « Les péchés de la chair sont néfastes, mais ce sont les moins néfastes de tous les péchés. Les pires des plaisirs sont purement spirituels. » Oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Le plaisir d'induire les autres en erreur, de les contrôler, de les traiter avec condescendance, d'être rabat-joie, d'être langue de vipère. Matthieu a parlé des relations la semaine dernière. Langue de vipère, attention à ce que je dis, à ce que je colporte. Les plaisirs du pouvoir et de la haine. Car, et là, il parle de lui-même. « Car il y a deux choses en moi qui luttent avec l'homme que je dois devenir. » Le moi animal et le moi diabolique. Le moi diabolique est le pire des deux. C'est pourquoi un homme orgueilleux, insensible et imbu de sa propre justice, bien qu'allant régulièrement à l'église, est bien plus proche de l'enfer que qu'une prostituée. Même si, bien sûr, il vaut mieux être ni l'un ni l'autre. Pire qu'une prostituée. Jésus veut nous interpeller sur notre état de cœur, mes amis. On n'est pas meilleur que les autres. La seule différence entre nous et les autres, c'est qu'on a compris qu'on avait besoin de Jésus pour continuer d'avancer. parce que notre cœur, il est tortueux et méchant par-dessus tout. La seule pratique qui fait la différence, c'est pas le légalisme, c'est pas l'ascétisme, mes amis, c'est le christianisme. Dieu béni par grâce. Dieu béni par grâce. Et ça, c'est décrit par l'attitude et la prière du deuxième homme, du collecteur d'impôts. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Ici, l'attitude, elle est différente. Le collecteur d'impôts n'a rien à présenter à Dieu. Il n'a rien à afficher par Dieu pour dire « Regarde combien je suis bon. J'ai rien à te présenter. » Il se frappe la poitrine, il est courbé. Il n'ose pas regarder les yeux au ciel, mais j'imagine il n'ose même pas regarder les gens qui sont autour de lui. Les regards peut-être qui sont méprisants sur sa personne. Il n'ose pas. Il est là en train de se frapper la poitrine comme un signe de deuil, de contrition, un signe de désespoir quant à lui-même. Il n'y a rien de bon en moi. Il ne cherche pas à se justifier. Il fait juste un constat lucide. Et le théologien Frédéric Godet va souligner par rapport au fait qu'il se frappe la poitrine que c'est l'emblème du coup de mort que le pécheur sent avoir mérité de la part de Dieu. Le cœur est frappé comme siège de la vie personnelle et du péché. Le pharisien ne voyait en lui-même que le juste, lui ne voyait en lui-même que le pécheur. Et ça rejoint notre vision d'église, mes amis. La doctrine de la grâce que nous prêchons n'est pas une doctrine de la grâce à bon marché. Si la grâce, elle est gratuite pour chacun d'entre nous, il y a quelqu'un qui a payé le prix fort. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pas une doctrine qui dit « Puisque Dieu me sauve, je fais ce que je veux ». Ça, c'est Paul Naref, les amis. C'est pas l'évangile. On ira tous au paradis. Cette notion de dire que Dieu n'a pas de loi, ça s'appelle l'antinomisme et c'est l'opposé du légalisme. Notre christianisme n'est pas un déni du mal qui nous habite. C'est pas d'être sans loi. L'antinomisme va insister sur la grâce de Dieu sans la vérité et affirmer nous sommes tous acceptés par Dieu et c'est à chacun de nous de décider ce qui est bien, ce qui est vrai pour nous. En gros, Dieu me fait grâce, peu importe ce que je peux faire ou les choix que je prends. L'antinomiste va dire ce qui est important, c'est d'écouter ton cœur. Mes amis, la Bible, quand elle parle du cœur, ce siège de nos pensées, de nos décisions, dans Jérémie, elle dit que notre cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. N'écoute pas toujours ton cœur. Il y a des gens qui ont écouté leur cœur et on voit ce que ça donne autour de nous. Notre cœur, il a besoin d'être transformé par l'Évangile. Oui, notre péché, il est grave. Oui, le mal qui nous habite, il est grave. Et c'est pourquoi Jésus a donné sa vie. Et nous avons besoin de reconnaître notre besoin de grâce. Je vais citer Pasteur Claude Houde qui disait la chose suivante. Le péché le plus grave que vous pouvez commettre est celui par lequel vous refusez de vous repentir. Repentir, ça veut dire faire demi-tour, changer de direction. Parce que vous n'avez aucune intention de changer. Vous n'avez aucune intention de changer. Le collecteur, lui, fait un constat lucide de son état. Mais il sait qu'il peut s'approcher de Dieu pour être au bénéfice de sa bonté et de sa miséricorde. Il est venu au seul endroit où l'on peut trouver le pardon. Et ça nous emmène à notre conclusion. Et puis je vais inviter l'équipe sur notre dernier point. Il y a deux finalités à cette histoire. Jésus dira, je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celui qui s'abaisse sera élevé. Mes amis, l'orgueil détruit tout. Il détruit notre vie, il détruit notre réputation et il détruit aussi notre destinée future. Lorsque le texte parle de juste ou de justifié, il fait écho au fait que Dieu déclare les gens non coupables de péché. Celles et ceux qui disent « J'ai compris que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi », Dieu les déclare non coupables. Celui qui est déclaré juste est en règle avec Dieu, car Jésus a payé le prix et le poids de sa faute. Je crois que Dieu veut encore tendre une corde dans notre misère. C'est le principe de cette miséricorde. Dieu voit notre misère et lorsqu'on en est conscient et qu'on tend le bras, Dieu tend une corde dans notre misère. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire encore à Strasbourg en 2024. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire encore au travers de l'église de l'Épi, au travers du corps, des pierres vivantes qui sont là, celles qui sont là en présentiel et les types de Jésus de Strasbourg qui sont sur Internet ce matin. Dieu veut nous utiliser comme des pierres vivantes pour permettre à des hommes et des femmes de s'emparer, de se saisir de cette grâce. Voilà ce qu'est l'évangile que nous prêchons à l'EPI. Nous refusons toute forme de discrimination. Quiconque a le droit d'avoir accès au message de l'amour de Dieu, qui appelle des pécheurs à reconnaître leurs péchés, à reconnaître leur mal et de pouvoir se tourner vers lui pour obtenir le pardon, la guérison, la libération et la transformation que seul Jésus peut offrir. Alors en tant qu'Église, nous sommes appelés, mes amis, à accueillir quiconque tel qu'il est, afin que nous ne soyons pas un obstacle par nos paroles blessantes, par nos regards méprisants, ou même par notre indifférence. Celle-là, je ne la regarde même pas. Parce que nos paroles blessantes, notre mépris par le regard, notre indifférence peut empêcher des gens d'expérimenter la grâce que Jésus veut encore donner en 2024. Ça peut empêcher de permettre au Saint-Esprit de venir opérer des changements et des transformations dans le siège des pensées, le cœur des uns et des autres. Alors mes amis, voilà notre ADN à l'EPI. Un ADN de la grâce. Une grâce qui transforme. On va reprendre ce chant ce matin qui dit que cet amour qui peut nous libérer. Ce chant nous dit que Jésus est celui qui nous appelle par notre nom. Peut-être que tu es venu ce matin dans ce lieu comme ce collecteur d'impôts. Tu penses que tu ne peux pas lever les yeux au ciel, tu penses que tu ne peux pas tendre tes mains vers Jésus parce que tu es allé trop loin. Tu penses peut-être que tu ne peux pas aller vers Jésus parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui t'a dit « Mais toi, tu ne mérites pas la grâce. » Ce chant nous dit que Jésus nous connaît chacun par notre nom. Il nous appelle par notre nom pour que nous puissions expérimenter sa grâce et son pardon encore aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on puisse le chanter comme une prière ce matin. Tu n'as peut-être pas l'habitude d'élever la voix, mais quand les paroles vont s'afficher, tu peux les chanter en disant « Seigneur, je veux être celui que tu appelles par son nom ce matin. » Dieu veut le faire au milieu de nous, je le crois encore. Mais il n'appelle pas que des publicains ce matin, il n'appelle pas que des collecteurs d'impôts. Et alors qu'on va fermer les yeux en reprenant ce chant, je vais inviter ceux qui se sentent peut-être comme un collecteur d'impôts, mais peut-être aussi ceux qui se laissent interpeller ce matin par dire « Ben ouais, j'ai peut-être réagi comme un pharisien. » J'ai peut-être agi comme un pharisien par mon mépris, par mes paroles dures, par l'attitude que j'ai pu avoir pour des frères, des sœurs ou des gens qui fréquentent ce lieu. Alors que les regards sont fermés, qu'on puisse prier, ben oui Seigneur, je veux pas oublier que c'est pour moi d'abord que tu es mort. Que ta parole, elle n'est pas là pour que j'aille chercher des poux dans la tête des voisins, mais que je la laisse être un miroir qui reflète là où j'ai encore besoin de changer. Mes amis, on est tous en progression, en chemin avec Dieu. Et on a tous besoin de se laisser former, déformer ce qui est mauvais pour être transformé encore ce matin. Je crois que c'est le programme de Dieu pour l'église de l'EPI, pour moi, pour l'équipe pastorale, pour les leaders. Tous, on a besoin de dire « Seigneur, veille, aide-nous à veiller à ce que le pharisaïsme ne rentre pas dans nos cœurs, par nos préjugés, par les choses qu'on a pu dire rapidement sans même essayer de vérifier les sources ou quoi que ce soit. D'aller voir la personne, mais juste d'aller parler bêtement sur elle. Je crois que Jésus nous appelle en tant qu'Église ce matin. Je vous laisse une dernière citation alors qu'on va prendre ce chant de Tabithi Aniabouilé qui dit la chose suivante, « Nous sommes tous pécheurs, que nous soyons bien habillés à l'extérieur ou mal en point à l'intérieur. » Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu à cause de notre péché. Amen. On peut se lever ensemble ce matin pour celles et ceux qui se laissent, comme j'ai dit, interpeller. Moi, je suis déjà debout. Seigneur, en tant qu'Église, on veut te demander pardon. Pardon si par nos attitudes, nos gestes et nos actions, il y a pu avoir des pointes de pharisaïsme qui empêchent à des hommes et des femmes pour qui tu as donné ta vie d'expérimenter le pardon et la grâce. Pardon pour nos manquements, pardon pour nos erreurs, pardon pour nos paroles légères, pardon pour nos paroles blessantes. Pardon pour notre attitude. Notre cœur en tant qu'Église, Seigneur, on veut se positionner encore ce matin pour te dire nous voulons être ce lieu, Seigneur, où des vies sont changées, transformées. On veut accepter quiconque, Seigneur, ce qui ne veut pas dire approuver tout ce que les gens font, mais les accepter tels qu'ils sont, parce que c'est toi qui opères le changement, c'est toi qui fais ton travail dans les cœurs, au rythme du Saint-Esprit. Seigneur, notre prière, c'est d'être une main d'association, une main d'accueil, une main qui va prier, une main qui va encourager, une voix, une parole, une prière, des larmes pour celles et ceux qui entreront dans ce lieu. Seigneur, je te prie pour notre église encore, Père, afin que nous fassions encore la différence dans cette année. On veut que cet ADN de la grâce soit notre culture, soit ce qui transpire de nos échanges, que ce soit le dimanche, mais dans nos groupes de maison, dans nos groupes de vie, dans nos groupes de formation, dans les échanges interpersonnels qu'on pourrait avoir à l'issue de cette célébration, avec nos collègues de travail, là où tu nous as placés au quotidien. Seigneur, tu veux te servir de nous comme des pierres vivantes. Pardon pour les obstacles qu'on a pu être. Mais Seigneur, on aspire à une touche du Saint-Esprit encore, afin que tu nous remplisses des sentiments qui étaient en Christ encore ce matin. Seigneur, viens nous remplir en tant qu'église locale. Viens nous conduire pour faire la différence, Père. Je veux prier encore, Seigneur, aussi pour des gens qui se sentent, qui sont lourds. On l'a entendu plusieurs paroles prophétiques dans ce sens ce matin-là. Il est possible pour toi de repartir léger, alors que tu vas proclamer ce chant comme une prière. Ton péché n'est pas assez lourd pour que la croix de Jésus n'ait pu le porter. Tu peux obtenir ton pardon, tu peux obtenir ta grâce encore ce matin et repartir libre et léger. Seigneur, je te prie de souffler sur notre communauté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Appelle à la croix de ta voix.
merci Raymond Pierre pour cet excellent message ce matin. Dans le prolongement de ce message, nous allons pouvoir ensemble prendre le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Nous allons aussi nous attendre les uns les autres. En prenant ce pain et en prenant ce vin, nous nous rappelons que le Seigneur nous appelle. Nous sommes invités, nous qui sommes dans cette attitude de ce collecteur d'impôts, nous sommes invités à sa table. Et nous voulons remercier le Seigneur pour son invitation. Nous voulons le remercier pour le sacrifice qui nous donne le pardon de nos péchés et qui nous accorde la justification. Nous sommes justifiés, traités comme si nous n'étions plus coupables. Seigneur, ensemble, nous te remercions pour le pain et pour le vin qui est distribué maintenant et qui nous rappelle que tu es mort sur la croix pour nous. Le seul sacrifice de Jésus qui peut nous sauver, nous pardonner et nous rendre justes, c'est la grâce de Dieu. Nous te remercions pour ta grâce. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre au milieu de nous. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous sommes tous pécheurs, sauvés par grâce. Et nous nous réjouissons, Seigneur, d'être au bénéfice de la grâce de Dieu aujourd'hui. Alors, en prenant dans un instant le pain et le vin, bénis, Seigneur, ton Église. Bénis tes enfants. Et qu'ils se fassent au travers de la communion avec toi, au travers de la présence de Jésus parmi nous, au travers de la grâce de Dieu, des signes, des prodiges, des miracles. Viens guérir nos cœurs et pourquoi pas aussi, Seigneur, nos corps, nos vies malades. Tu es la guérison, tu es la vie, tu es notre salut et en toi nous avons tout. Alors oui, un grand, grand merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors que le pain et le vin est en train d'être distribués, attendons-nous, on va le prendre ensemble pour manifester que nous sommes unis, que nous sommes en communion les uns avec les autres et que nous sommes ensemble. Faire un petit signe si les derniers rangs sont servis. D'ici, je ne vois pas tout le monde. Voilà, merci Freddy. C'est un moment solennel, un moment intense, un moment d'intimité. C'est entre toi et le Seigneur, mais nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. Et on ne veut pas prendre ce temps à la légère. On a le temps, on s'attend les uns les autres. On n'est pas pressé, mais on veut le vivre de tout notre cœur. Et comme pour donner suite au message de ce matin, vous savez que c'est important de réagir toujours rapidement après un message, de se l'approprier dans un esprit de prière en disant « Seigneur, comment moi, ce que je peux mettre en pratique ?» Dans quel domaine, comme nous l'a rappelé Raymond Pierre, est-ce que je ne ressemble pas à un pharisien ? En tout cas, ce matin, avec l'Église, nous ne voulons pas être des pharisiens. Nous voulons être dans l'attitude de ce collecteur d'impôts en nous approchant du Seigneur avec humilité. Voilà, je crois que tout le monde est servi. Eh bien, je vous invite à prendre le pain tous ensemble. Le pain qui représente le corps de Jésus qui a été meurtri pour nous. Et nous allons prendre aussi le vin. Le fruit de la vigne qui représente le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ce temps de communion avec toi, communion personnelle, mais communion aussi collective avec ton Église. Merci de la conduire dans cette culture, dans ces valeurs qui sont les valeurs de l'Évangile, de ta parole. Que cette semaine tout particulièrement soit comme un miroir, que cette parole reflète ce dont nous avons besoin. L'image que j'ai de moi-même est là dans les domaines où je dois être changé, transformé. Merci parce que tu as beaucoup de persévérance à notre égard à chacun et que ton œuvre que tu as commencée, tu la termineras, tu l'accompliras et tu iras jusqu'au bout. Merci de bénir ton Église. Amen.
Je pense que ce pont résume assez bien ce qu'on peut vivre ensemble, ce qu'on veut vivre cette semaine. On va juste le reprendre une dernière fois. De ta voix.
De ta voix. De ta voix. Tu nous appelles.
Quelle prière de l'Église en 2024. De ta voix.
De ta voix.
De ta voix,
de ta voix, de ta voix,
libère les captifs,
tu nous appelles
une dernière fois de ta voix,
de ta voix, de ta voix, tu nous appelles.
Cet amour, toute l'Église ensemble, on y va.
Cet amour qui peut libérer
Strasbourg, l'Eurométropole.
Cet amour qui peut
les familles, les quartiers
nous appellent par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout.
Est-ce qu'en tant qu'église de l'Épi, on ne pourrait pas applaudir Dieu pour sa grâce infinie, insondable, qui transforme, qui libère du péché, qui restaure? Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous arrivons à la fin de ce temps de célébration, mais la vie avec Jésus, elle continue. Donc pour toutes les annonces, toutes les infos, vous avez une question, prenez sur la droite la personne qui n'a pas encore récupéré sa clé. Il faut qu'elle la récupère, sinon elle viendra manger avec moi à midi. Donc n'hésitez pas. Donc pour toutes les infos, c'est pour Atrif à droite. Et on voudrait une information importante pour quelqu'un qui a vécu ce matin avec la personne du Saint-Esprit de Dieu. Voilà, un temps fort d'interpellation. Nous avons un espace écoute et prière qui va se libérer tout de suite à l'instant sur ma gauche, sur votre droite. Donc on va demander à vous qui êtes sur cette allée de libérer maintenant cet espace. Vous avez un sujet de prière, vous avez été interpellé, rendez-vous directement ici. Une équipe vous attend, va vous écouter, va prier avec vous. Vous allez vivre les prolongements de tout ce que vous avez déjà vécu ce matin. On vous souhaite une bonne, une belle semaine et surtout une semaine bénie dans le nom de Jésus. Un bon retour à vous et que Dieu vous bénisse aussi en ligne. Et à Jésus, toute la gloire !